Que le Seigneur soit béni. Alléluia. Merci au Seigneur pour sa fidélité envers nous. Voilà, ce soir, on va ouvrir pour introduire notre message. Nous allons dans Jean chapitre 17. Jean 17, verset 6. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'as données et les ont reçues. Et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi, et je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde. Et je vais à toi. Père Saint, garde en ton nom ceux que tu m'as donnés, afin qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ceux que tu m'as donnés, et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l'Écriture fût accomplie. Et maintenant je vais à toi et je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde comme je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole et la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Amen. Que Dieu soit béni. Ce chapitre 17 est tout à fait extraordinaire, où nous voyons la prière de Jésus à son Père, une prière qui est porteuse d'un message qui nous parvient encore aujourd'hui. Il y aurait bien sûr beaucoup de choses à dire sur tout ce chapitre 17, mais ce soir, j'aimerais m'arrêter sur le fait que nous sommes citoyens de deux royaumes. Jésus est celui qui nous a envoyés dans ce monde. Il est resté aussi dans ce monde quelques années, mais il n'est plus de ce monde comme nous l'avons lu. Il n'est plus dans ce monde comme nous l'avons lu. Toutefois, nous sommes, nous, encore dans ce monde. Et à cause de l'œuvre que Jésus a fait dans nos cœurs, dans nos vies, nous sommes désormais citoyens du ciel. Alléluia. Amen. Nous sommes citoyens du ciel. Nous sommes donc citoyens de deux royaumes et cela, pour nous, parfois, nous cause quelques tracasseries, j'allais dire, quelques soucis et parfois nous met en porte-à-faux quant à notre position dans ce monde. Et c'est ce qu'un petit peu nous allons voir ce soir. Nous sommes donc citoyens de deux royaumes. Jésus est au-dessus de ce monde, il est au-dessus de notre société. Il est venu dans ce monde, il s'est incarné, il s'est fait chair, mais il est au-dessus de ce monde. Nous sommes citoyens de deux royaumes. Nous sommes citoyens de deux royaumes. Et tant que nous serons ici-bas, ce sera une réalité que nous vivrons tous. Parfois, certains ont été tentés de se retirer du monde, mais nous sommes encore dans ce monde. C'est la volonté du Seigneur. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Ne cherchons donc pas à nous retirer du monde. L'apôtre Paul se considérait comme un citoyen de Tars, citoyen romain, qu'il avait depuis sa naissance. Et il le dira dans certains passages que nous pouvons lire, par exemple, dans Actes 21, verset 39. On va juste lire un passage. Actes 21, verset 39. L'apôtre Paul dit « Je suis juif, reprit Paul, de Tars en Cilicie, citoyen d'une ville qui n'est pas sans importance. Permets-moi, je te prie, de parler au peuple. » Dans d'autres passages, on voit qu'il met aussi en avant le fait qu'il est citoyen romain. L'apôtre Paul avait cette double nationalité. Il était juif, mais il était aussi citoyen citoyen romain. Et l'apôtre Paul vivait dans son époque, dans la société de son époque. Il n'a pas cherché à se retirer. Bien sûr, notre cœur, lui, est retiré de ce monde. Mais nous sommes quand même là, dans ce monde, et soumis aux lois de ce monde. Et l'apôtre Paul, qui se considérait comme citoyen de Tarse, comme citoyen romain, se considérait aussi comme citoyen du ciel. Nous pouvons lire, par exemple, dans Philippiens, chapitre 3, verset 20, Paul dira, « Mais notre cité à nous est dans les cieux. » Amen. D'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Notre cité à nous, elle est dans les cieux. Alléluia. Amen. Ça, c'est extraordinaire. Le même qui avait pu dire qu'il était citoyen romain dit, « Notre cité à nous, elle est dans les cieux. » C'est ça qui compte. Hein. Notre cité à nous est dans les cieux. Nous sommes citoyens. Et l'apôtre Paul dira encore dans l'Éphésiens que nous sommes concitoyens des saints. Alléluia. Merci Seigneur. Et donc nous avons, j'allais dire, notre cœur qui est tourné vers le ciel. Ça ne veut pas dire pour autant que nous ne nous occupons plus de ce qui se passe sur cette terre. Certains véhiculent, j'allais dire, cet enseignement. Puisque nous sommes citoyens du ciel, il ne faut plus du tout s'occuper des choses de cette terre. Mais on voit à la lumière de la parole de Dieu que ce n'est pas ce que le Seigneur attend de nous. Ce n'est pas ce que le Seigneur attend de nous. Il dira même, et nous l'avons lu au verset 15, dans Jean 17, verset 15, il ne nous a pas ôtés de ce monde. Il ne nous a pas ôtés de ce monde. Il est vrai que nous sommes encore de ce monde, tout en appartenant déjà au ciel, j'allais dire. Nous sommes de ce royaume-là. Nous sommes du royaume des cieux, que son nom soit béni. Jésus dira à Pilate, « Mon royaume n'est pas de ce monde. Mon royaume n'est pas de ce monde. » Pour autant, Jésus a vécu dans ce monde. Jésus a été soumis aux lois de son époque. Il a même payé l'impôt. Hein, il a payé l'impôt. Pour cela, il nous a montré qu'il était soumis aux lois de ce monde. Mais pour nous, posons-nous la question. Quel royaume a le plus d'importance ? Il est vrai que nous sommes citoyens de deux royaumes. Certains ont parfois la double nationalité. Ils sont français, suisse par exemple, ou français et allemand. Ils ont une double nationalité. Mais nous aussi, quelque part, nous avons une double nationalité. Hein. Nous sommes citoyens de ce monde, mais en même temps, citoyens des cieux. Mais pour nous, à nos yeux, dans notre cœur, quelle citoyenneté a le plus d'importance ? J'aimerais lire avec vous dans Hébreux chapitre 13, verset 14. Car nous n'avons point ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Nous n'avons point ici-bas de cité permanente. Quelle est, à nos yeux, la cité qui a le plus d'importance ? Je parlais tout à l'heure que certains ont une double nationalité, peut-être. S'il y a quelqu'un qui a la nationalité française et allemande, il va préférer peut-être la France pour telle ou telle raison. Mais si nous préférons, et si notre cœur est attaché à la cité du ciel, il y a plusieurs raisons à cela. Déjà, parce que nous avons compris que les cités d'ici-bas, elles ne sont pas permanentes. Un jour, cette terre disparaîtra. Aussi illustre soit une nation sur cette terre, on peut être fier d'appartenir à telle ou telle nation, qu'importe. Un jour, ces nations-là disparaîtront. Toutes les nations disparaîtront. Les cités, on parle du prestige de certaines villes. Hein, quand on parle de Paris, Paris qui est renommée dans le monde entier, on parle du prestige de Paris. Mais tout ça, ça disparaîtra. Nous n'avons point ici-bas de cité permanente. Notre cité, à nous, elle est dans les cieux. Et elle est permanente. Et rien qu'avec cela déjà, rien qu'avec cela, ça nous détermine dans notre préférence. Oui, nous préférons la cité du ciel parce qu'elle est permanente. Mais ce n'est pas la seule raison à cela. Ce n'est pas la seule raison. Notre cité à nous, qui est dans les cieux, elle a pour roi le Seigneur des seigneurs. Les hommes qui gouvernent, les hommes et les femmes qui gouvernent ce monde, sont des hommes. de la même nature que nous. Ils ont leurs qualités, certainement leurs compétences, mais ils ont aussi leur part d'ombre, ils ont aussi leurs faiblesses et leurs limites. Ce ne sont que des hommes. Même s'il peut exister de bons présidents, de bons gouverneurs, de bons rois, mais même le meilleur d'entre eux n'égale en rien notre Seigneur. Nous avons pour Dieu, c'est lui notre roi, c'est lui le chef de ce royaume. Alléluia. Le monde entier, n'oublions pas une chose, le monde entier est sous l'emprise du malin. Quelle cité préférons-nous ? L'apôtre Paul, à un moment donné, parle d'un de ses équipiers. Il parle de Démas qui a combattu avec lui pour l'évangile, mais il dira il m'a abandonné. Hein. Il parle de Démas qui a abandonné le bon combat. Pour quelle raison ? Par amour pour le siècle présent. Est-ce que Démas avait perdu de vue que ce monde est éphémère ? Est-ce que Démas avait perdu de vue que ce monde-là est sous l'emprise du malin ? Séduit par certaines choses peut-être, et ses yeux se sont tournés vers les biens que peuvent procurer ce monde, mais il avait perdu de vue cette espérance à laquelle le Seigneur nous appelle les uns et les autres. Notre cité à nous, nous la préférons parce qu'elle est glorieuse. Alléluia ! Elle est glorieuse. Lorsque nous lisons dans l'Apocalypse cette description qu'a vue l'apôtre Jean, et encore avec ces mots humains, certainement qu'il n'a pas pu décrire la splendeur de cette cité. Notre cité à nous, elle est glorieuse. Celles d'ici-bas, bon, elles le sont beaucoup moins, il faut le dire quand même. Notre cité à nous est glorieuse. Notre cité à nous a des valeurs que ce monde n'a pas, Les valeurs du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais c'est la paix, la joie et la justice par le Saint-Esprit. Lisons juste quelques valeurs que nous connaissons bien, qui, j'allais dire, régissent notre royaume. Dans Galates, chapitre 5, verset 22. Galates, chapitre 5, verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Voilà les valeurs qui régissent notre royaume à nous. Peut-être ce sont des valeurs que le monde n'apprécie pas trop. Par exemple, quand on parle de fidélité aujourd'hui, quand on parle de bonté, etc., sont peut-être des valeurs que le monde d'ici-bas n'apprécie pas. Mais ces choses-là font la qualité de notre royaume. Et l'apôtre Paul rajoute « la loi n'est pas contre ces choses ». Alors bien sûr, il fait référence à la loi de Moïse parce que dans cet épître aux Galates, l'apôtre Paul combat le légalisme, certains se replacer sous le joug de la loi de Moïse, les hommes allant jusqu'à se faire circoncire, parce qu'il y avait un courant de doctrine qui enseignait qu'il fallait que se faire circoncire pour être sauvé, que la foi en Jésus ne suffisait pas, il fallait aussi se faire circoncire pour les hommes. Alors l'apôtre Paul va recadrer les choses, reparlant de cette foi qui libère, de ce joug de la loi. Alors bien sûr, il parle dans un premier lieu de la loi. La loi de Moïse n'est pas contre ces choses-là. Elle n'est pas contre l'amour, elle n'est pas contre la patience, elle n'est pas contre la paix, contre la fidélité, etc. Il n'y a rien dans la loi qui soit contre ces choses-là. Et ça, c'est ce que produit l'esprit. Mais de la même manière que la loi de Moïse n'est pas contre ces choses-là, contre ces valeurs, quelles lois humaines sont contre ces choses-là ? Est-ce que du temps de l'apôtre Paul, les lois qui régissaient, le royaume d'Israël, qui étaient emprunt, ces lois-là étaient quand même emprunt de la loi de Moïse. Aucune loi n'était contre ces choses. Est-ce qu'une loi de l'Empire romain était contre ces choses-là? Non. Je veux dire, est-ce qu'une loi de notre pays est contre ces choses-là? Est-ce qu'une loi en France pourrait nous accuser d'amour, de joie, de paix, de patience? Est-ce qu'on pourrait être mis au tribunal pour bonté? Est-ce qu'on pourrait être mis au tribunal pour fidélité, pour douceur, pour tempérance? Je ne pense pas. La loi n'est pas contre ces choses. Comprenez? Même si le monde, parfois, n'apprécie pas ces qualités-là, il n'y a pas de loi contre ces choses. Voilà ce qui régit notre royaume. Et c'est pour cela que nous attachons beaucoup plus d'importance à notre royaume, à cette cité dans le ciel, à notre citoyenneté d'enfant de Dieu, que son nom soit glorifié. Amen. Alors, il faut bien se dire quand même que ces deux royaumes sont totalement différents l'un de l'autre. Ils sont différents et ils sont même incompatibles. Ils sont incompatibles. Dans 2 Corinthiens chapitre 6, verset 14. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit, j'habiterai, je marcherai au milieu d'eux, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. On voit bien ici qu'il y a une incompatibilité. Il n'y a pas de rapport, il n'y a rien en commun entre les ténèbres et la lumière. Il n'y a rien de commun. Il n'y a rien de commun entre Christ et Bélial. Il n'y a rien de commun. C'est comme cela, on ne peut pas concilier les deux, on ne peut pas concilier les deux. Aussi, nous est-il dit de sortir du milieu d'eux. Alors, il faut équilibrer avec ce que dit l'apôtre Paul aussi, par ailleurs, non pas d'une manière absolue, physiquement, parce que sinon il nous faudrait nous couper du monde. Et certains groupements, j'allais dire même évangéliques, ont fait cela. On peut penser par exemple aux Amish et d'autres. Aux Ménonites et autres qui le font d'une manière, j'allais dire, physique, qui se sont coupés du monde. Mais l'apôtre Paul ne parle pas d'une manière absolue. Bien sûr, il nous faut sortir du milieu d'eux dans notre cœur et ne pas nous lier à... Alors ici, il parle bien sûr de l'idolâtrie, il parle de certaines choses. On ne peut pas se lier, on ne peut pas se lier. C'est impossible. C'est l'un ou l'autre. Ce n'est pas gris, hein. C'est l'un ou l'autre. Ce n'est pas entre les deux. Il nous faut sortir du milieu d'eux, comme nous dit la parole de Dieu. C'est car ces deux mondes sont totalement incompatibles. Ils sont incompatibles. Jésus dira, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. C'est l'un et l'autre. C'est l'un ou l'autre. Et rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Ces deux mondes sont différents. Ils sont incompatibles. Et c'est là pour nous la difficulté. C'est un paradoxe, parce que nous devons respecter les deux royaumes. On le voit dans certains textes. L'apôtre Paul, dans Romains 13, nous dit d'être soumis aux autorités. Ce n'est pas toujours facile, il faut le reconnaître. Et c'est pour nous parfois un combat, c'est un combat. Jésus dira, ils sont dans ce monde. Ils sont dans ce monde. Alors tant que nous serons dans ce monde, il nous faut respecter ce monde. Mais en même temps, au verset 17 que nous avons lu, ils ne sont pas du monde. Comprenez? C'est pour nous un tiraillement, c'est pour nous un combat qui est là dans notre cœur. Et parfois, ça nous cause certains soucis parce que nos yeux sont tournés vers le Seigneur et il y a des choses qui ne nous plaisent pas dans ce monde. Il y a des choses qui ne nous plaisent pas dans ce monde. Il y a des lois aussi qui peuvent ne pas nous plaire parce que notre conscience est éclairée par le Seigneur, éclairée par la parole de Dieu. Donc il y a des choses qui sont difficiles pour nous à vivre au quotidien, dans notre travail, dans notre ville, dans notre village, lorsque même il nous est demandé de voter pour telle ou telle personne politique, sachant peut-être quelle politique il mène. Donc ça peut aller loin, ces choses-là. Dans Jérémie 29, 7, il est dit de chercher le bien de la ville où nous sommes, où le Seigneur nous a amenés en captivité, dans le contexte. C'était les Juifs qui étaient amenés en déportation. Il aurait été recommandé de chercher le bien de la ville où Dieu les avait amenés en captivité. Ça, c'est important. Donc, on voit que le Seigneur veut même que l'on prenne, qu'on cherche le bien de la ville où on est, de cette cité ici-bas dans laquelle nous nous trouvons. Bien sûr, il y a des limites à cela. Mais avant de parler des limites, il y a un point d'équilibre. Il y a un tiraillement, il y a un combat parfois, parce qu'il y a des choses que nous ne pouvons pas faire par rapport à notre conscience éclairée de la parole de Dieu. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Je pense qu'il y a des situations dans lesquelles nous sommes confrontés les uns les autres qui nous amènent à vivre cela. Personnellement, et je pense que c'est arrivé à plusieurs d'entre nous, avant d'être dans le ministère à plein temps, dans l'entreprise où je travaillais, mon patron m'avait demandé de mentir à un client. J'étais déjà au Seigneur, j'étais tout jeune, j'ai refusé. Il n'était pas content, hein. J'ai refusé et je lui ai expliqué pourquoi. Il n'était pas content, il a accepté, il a demandé à un autre collègue de le faire. Mais c'est vrai que on peut avoir des pressions de ce genre et parfois même des menaces si on ne fait pas ce qu'on nous demande. Si notre chef nous demande quelque chose qui va à l'encontre de notre éthique chrétienne, c'est là qu'on s'aperçoit que être dans ce monde, avec les yeux tournés vers le ciel, n'est pas si évident que cela. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Voilà, on voit la prière de Jésus. Il prie afin que nous soyons préservés du mal. Il sait ce que c'est que d'être dans ce monde. Parce que lui, il l'a vécu aussi. Il l'a vécu. On a parlé beaucoup de Jésus cet an dernier. Et il a vécu, il s'est incarné, il s'est fait chair, il a vécu dans ce monde. Il sait le mal qui règne dans ce monde, il le sait. Aussi fait-il cette prière, mais de les préserver du mal. Non pas de les ôter du monde, comme je le disais tout à l'heure, certains se retirent du monde. On pourrait dire, mais être ôté du monde, ce serait, on serait bien. On serait bien. Mais vous savez, si on va vivre, même tout seul, on emporte notre cœur avec nous. Hein. Ce n'est pas comme ça qu'on est préservé du mal. C'est pas comme ça. On ne peut pas être préservé du mal en se retirant de ce monde. Ce n'est pas possible. On est préservé du mal lorsqu'on trouve notre refuge en Jésus, qui nous fortifie par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Et qui nous sanctifie par sa parole. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Alléluia. C'est ainsi, préserver du mal. Plus un pays est éloigné de Dieu, plus il est difficile de trouver ce point d'équilibre pour nous chrétiens. Il y a des pays encore aujourd'hui qui sont fortement imprégnés de la parole de Dieu. J'en ai connu un. Fortement imprégnés de la parole de Dieu. Lorsque nous étions à Saint-Pierre-et-Miquelon, de temps en temps, il nous est arrivé quelquefois d'aller à côté, il y a une grande île canadienne qui s'appelle Terre-Neuve. Il y a énormément d'églises anglicanes, c'est une île anglicane. Et puis, il y a beaucoup de chrétiens qui sont nés de nouveau dans cette île, plus de 10% de la population. Mais les autres qui ne sont pas convertis sont des anglicans, mais qui ont un respect pour la parole de Dieu. Ils ont un profond respect pour la parole de Dieu. Et ça se ressent dans leur vie de tous les jours. Nous connaissions un gendarme, un gendarme de cette île qui travaillait là. Et je n'ai pas beaucoup de travail. Alors, peut-être que nos gendarmes à nous français l'enviraient. Hein. On a très peu de délinquance. La seule chose qui nous donne un peu de travail, c'est les contrebandes d'alcool avec Saint-Pierre-et-Miquelon, la réputation des Français. Voyez. Il n'y avait pas beaucoup de travail. Même il y avait peu de problèmes de voisinage. Très peu. Les gens vivent paisiblement. Et qu'est-ce qui fait ça? C'est l'impact de la parole de Dieu dans leur cœur. C'est pour ça que je dis que plus un pays est éloigné des valeurs de la parole de Dieu, plus c'est difficile de vivre dans un tel pays. Nous l'avons vécu lorsqu'on vit dans un pays empreint de l'islam. C'est compliqué pour un croyant. C'est très compliqué pour un croyant. C'est difficile au quotidien. On ne s'imagine pas la difficulté que ça peut être pour un chrétien là-bas de vivre dans un tel pays. Mais c'est au quotidien que c'est difficile. C'est difficile sur le lieu de travail. C'est difficile dans les restaurants. C'est difficile dans la rue. C'est difficile dans la famille. Peut-être encore plus dans la famille, si celle-ci n'est pas au Seigneur. C'est difficile par rapport à certaines lois qui sont proclamées. Donc plus un pays est éloigné des valeurs de la Bible, plus c'est difficile en tant que chrétien d'y vivre et de nous positionner dans le travail, comme je donnais cet exemple tout à l'heure, positionner dans la gestion financière, positionner dans les problèmes éthiques que l'on rencontre. On a nos problèmes aussi d'éthique et de bioéthique en France. Pas évident. Il y a des lois que nous avons du mal à accepter quand même en France, hein, en tant que chrétiens. Et oui, il y a des lois qu'on a du mal à accepter, qui touchent l'éthique, qui touchent la morale, qui touchent la bioéthique. Il y a des lois qui passent mal. Et on vit dans ce monde. Et Jésus dira, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Pour nous, c'est important d'être comme Jésus. Alléluia. Nos regards sont fixés sur lui. La manière dont Jésus vivait dans ce monde. La manière dont Jésus a vécu dans ce monde. Il a, pour certaines choses, dénoncé certaines choses. Mais on voit aussi que, pour d'autres, il était soumis. Il y a bien sûr une limite à tout cela. Il y a une limite. Il y a un point de rupture. Il y a un point de rupture. Et ce point de rupture, vous connaissez bien ce verset, on peut le lire dans Actes chapitre 4, verset 19. Actes 4, verset 19. Pierre et Jean leur répondirent, « Jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. » Et puis on retrouve ça dans un autre passage aussi. Il y a un point de rupture. Les religieux, qui faisaient un peu la pluie et le beau temps là, hein, les religieux imposaient aux apôtres de ne pas parler de Jésus. Ils leur imposaient. Mais il vaut mieux obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. C'est le point de rupture lorsque une loi d'un pays nous obligerait à faire quelque chose qui soit à l'encontre de ce en quoi nous croyons. C'est le point de rupture. Ça ne veut pas dire que Pierre et Jean et les autres apôtres étaient des insoumis. Ce n'est pas ça. L'apôtre Paul qui a pu écrire « Soyez soumis aux autorités » était soumis aux autorités, mais lui aussi vivait ce point de rupture. Lui aussi prêchait l'évangile, même si cela était interdit. C'est le point de rupture. Il y a des choses qu'on ne peut pas, sur lesquelles il n'y a aucun compromis qui est possible. Aucun compromis qui est possible. Il faut obéir à Dieu. Plutôt qu'aux hommes, il y a certaines choses qu'on ne peut pas, parce qu'on est enfant de Dieu. Parce qu'on est enfant de Dieu. C'est vrai que ça peut coûter cher. Ça a coûté cher aux premiers apôtres, aux premiers disciples. Comme aujourd'hui encore dans certains pays, comme ça pourrait nous arriver en France. C'est déjà arrivé plusieurs fois en France. Lorsqu'on lit l'histoire de l'Église en France, elle a connu ces persécutions, il n'y a même pas si longtemps que cela. Hein. Il n'y a pas si longtemps que cela encore en France. Il y a à peu près, ça s'est terminé un petit peu avant la Révolution française. Et on n'est pas à l'abri que ça recommence. Et, mais sur certains points, il faut quand même savoir que certaines vivent des graves difficultés, même en France, parce qu'ils sont chrétiens. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. C'est le point de rupture. Nos yeux sont tournés vers celui qui tient le monde, celui qui est l'alpha et l'oméga, celui qui est le premier et le dernier, le commencement et la fin. C'est lui qui aura le dernier mot. Le ciel et la terre passeront, mais sa parole demeure éternellement. Alléluia. Sa parole demeure éternellement. Et nous voulons prendre courage, parce que celui qui nous a envoyés dans ce monde est le même qui nous préserve du mal. Il nous donne la force de pouvoir nous préserver du mal, de garder notre cœur plus que toute autre chose. Et pour conclure, pour terminer, nous allons dans cette épître aux Colossiens, Colossiens chapitre 3, cette épître extraordinaire, Colossiens chapitre 3, verset 1er. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes mort et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Amen. Quel passage extraordinaire. Nous avons parlé mardi dernier de la résurrection de notre Seigneur, de son ascension. Il a été élevé dans la gloire. Et nous sommes ressuscités, on l'a vu la semaine dernière, nous sommes ressuscités avec Christ. Et même dans Éphésiens, il dit que nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes. Alléluia. Si donc nous sommes ressuscités avec Christ, nous voulons chercher les choses d'en haut, où Jésus nous a précédés, où Jésus nous a préparé une place. Et nous voulons nous affectionner aux choses d'en haut. C'est notre cité permanente. Nous ne cherchons pas à amasser des trésors ici-bas, où les voleurs peuvent voler, où la rouille peut rouiller tout ce qu'elle peut rouiller. Mais nous voulons nous amasser des trésors dans le ciel. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. C'est ce qu'avait oublié des masses, et non à celles qui sont sur la terre. Oui, il y a des choses sur la terre que nous pouvons apprécier, mais ces choses-là disparaîtront. Elles disparaîtront. Mais notre cœur s'affectionne aux choses en haut, car vous êtes morts. Nous sommes morts pour ce monde, et notre vie est cachée avec Christ en Dieu. Alléluia, jusqu'au jour de la révélation, jusqu'au jour où nous paraîtrons aussi avec lui dans la gloire, où le Seigneur viendra chercher son Église. Alléluia. Toute langue confessera. Amen. Tout genou fléchira devant lui. Que son nom soit glorifié. Alors merci Seigneur. Il a été envoyé dans ce monde, et de la même manière aussi, nous les uns et les autres, nous sommes envoyés dans ce monde. Que le Seigneur nous aide dans notre quotidien, parce que ce n'est pas toujours évident. Ce n'est pas toujours évident dans le voisinage, ce n'est pas toujours évident dans les écoles, ce n'est pas toujours évident dans le lieu de travail, dans les relations les uns avec les autres, ce n'est pas toujours évident dans le village peut-être, la ville où nous habitons, ce n'est pas toujours évident à tout point de vue, mais nous savons à quelle espérance nous sommes appelés. Alléluia. Et dans ces contextes difficiles dans lesquels nous sommes, parce que ce royaume de ce monde nous cause des soucis, nous savons une chose, que nous sommes appelés à être le sel de cette terre. Le sel de cette terre, et Jésus dira aussi la lumière de ce monde. Alléluia. Merci Seigneur. On va bénir notre Seigneur Jésus. Merci pour ta parole Seigneur. Merci de nous rappeler ces choses Seigneur. Tu nous aides les uns et les autres Seigneur à être cette lumière dans ce monde Seigneur, ce sel de la terre. Tu nous as envoyés dans ce monde, Seigneur, afin que nous puissions faire briller ta lumière. Merci parce que c'est toi aussi qui nous préserve du mal. C'est toi, Seigneur, qui nous aide, qui nous donne ta sagesse, ton bon sens, pour savoir ce qu'il convient de faire dans telle ou telle situation où nous sommes confrontés les uns les autres à cause, Seigneur, de l'injustice de ce monde, à cause de la perversité parfois qui y règne. Seigneur, nous te bénissons parce que nous savons que tu auras le dernier mot, Seigneur. Ô Seigneur, nos yeux sont tournés vers toi, Seigneur. Elles sont tournées vers toi, notre cœur sont tournés vers toi, Seigneur. Ô béni sois-tu, Seigneur Jésus. À toi soit toute la gloire, Seigneur. Amen. Alléluia, Jésus. Ô Seigneur, tu es merveilleux, Jésus. Nul n'est semblable à toi. Alléluia. Tu as vaincu ce monde. Ah, Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Que Dieu soit béni. Nous bénissons le Seigneur pour sa bienveillance à notre égard et sa patience à notre égard. Hein. Sa patience à notre égard. Malgré, ce sera juste, j'y pensais là, malgré toute la perversité qui peut exister dans ce monde, qui déplaît au plus haut point à notre Seigneur, on a du mal à s'imaginer à quel point Dieu déteste le péché. Mais pour autant, Dieu prend patience envers ce monde. Ça nous dépasse. Il prend patience envers ce monde. Il prend patience envers les pécheurs, parce qu'il aime les pécheurs. Il n'aime pas le péché, mais il aime les pécheurs. Ne voulant qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Alors merci Seigneur pour ta patience à notre égard. Amen.